Une fois par mois, dans l'Union, un récit dans lequel on donne la parole à un Européen ou une Européenne afin qu'il ou elle nous livre un témoignage, une anecdote, qui met en avant ce que peut incarner l'Europe pour lui ou elle dans ce qu'elle peut avoir de bon comme de négatif. Y a-t-il une mémoire collective européenne ? Quels sont les souvenirs liés à l'Union Européenne et quelle expérience les 15-35 ans font-ils de l'Europe en 2022 ? Ayant grandi en France, j'ai appris dans un premier temps dans ma famille, puis à l'école, l'importance de l'Union Européenne, gigantesque projet de paix réparateur des blessures de la Seconde Guerre mondiale et à l'origine de réformes libérales et sociales. Habitant aujourd'hui à Bruxelles, je me suis, pendant plus de 20 ans, défini comme un Européen convaincu, pur et dur, qui au grand jamais ne pourrait remettre en cause les bienfaits de la Sainte Union. Mais au fil de rencontres avec les gens de ma génération, lors de voyages, de promenades, de pendaisons de crémaillère ou de verres au comptoir de bar, une question revenait sans cesse. À quoi sert réellement l'Europe ? Comment peut-elle aussi mal communiquer de telle manière que ces 447 millions de ressortissants et ressortissantes puissent à ce point ne rien savoir ni comprendre de ses agissements ? Je me suis donc dit que raconter son expérience faite de l'Europe, c'était mettre en avant ce qui fonctionnait, mais aussi pointer du doigt les absurdités d'un territoire que nous partageons tous et toutes. C'est raconter toutes les situations, plus ou moins banales, de la vie quotidienne, dans laquelle nous, génération Y et Z, interagissons avec l'Union Européenne. Chaque mois, la parole est à trois jeunes, afin qu'ils et elles nous témoignent de leur expérience faite de l'Europe, en paroles et en chansons, en nous racontant une anecdote de leur choix.
Je m'appelle Margot, j'ai 25 ans, j'étudie le droit international et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages dans l'Union Européenne, notamment dans des ambassades, et j'ai également eu l'occasion de faire Erasmus. Ça faisait 9 mois que j'étais en Erasmus, que tout s'était extrêmement bien passé, et c'était surtout la première fois que je partais de France. Enfin, j'étais partie une fois de France pour aller à Londres en voyage scolaire, mais mes parents, tu vois, prennent pas l'avion, c'est des gens de la campagne, etc. Moi, j'avais jamais pris l'avion vraiment, c'est la première fois que je partais toute seule, etc. Donc il y avait un contexte quand même un peu, genre première fois, un peu intriguant, un peu machin. Donc je suis en année Erasmus à Londres, je suis avec plein d'Européens et même d'Américains et de Brésiliens. Tout se passe très bien et puis vient les vacances scolaires en France et du coup tous mes amis français avec qui j'étais très proche décident de rentrer en France pour passer les vacances scolaires avec leurs amis ou leurs parents. Donc je me retrouve seule française dans toute ma résidence étudiante Erasmus avec que des étrangers. Et d'un coup, d'un seul, me vient une grosse crise d'angoisse qui m'arrive très rarement. Je pense que le fait de se retrouver seule française au milieu d'étrangers quand t'es jeune, etc., ça a peut-être provoqué une montée d'angoisse. Et du coup, la crise d'angoisse est arrivée et là, fallait agir, quoi. Quand ça m'arrive, j'ai besoin d'un médicament, etc., que je n'avais pas, bien sûr, pas emmené. Donc, je commence à paniquer et je me dis, il faut que j'aille à l'hôpital pour qu'on me fournisse un médicament. Sauf que je ne voulais pas y aller toute seule, vu que c'était ma première année à l'étranger, je ne maîtrisais pas encore très bien l'anglais. Donc, j'ai pris la première personne qui m'est passée sous la main, qui était une Espagnole bien gentille. J'ai essayé de lui expliquer en anglais, tant bien que mal, que j'étais en train d'angoisser et qu'il fallait qu'elle vienne m'aider. Donc, elle ne comprenait pas trop pourquoi je devais aller à l'hôpital. Elle paniquait, elle aussi, parce qu'elle ne comprenait pas. Donc, je la prends sous le bras. On arrive à l'hôpital, le service des urgences, pareil, ne comprend pas ce que je viens faire là pour une crise d'angoisse. Moi, je voulais simplement juste avoir mon médicament pour que ça aille mieux et que tout revienne à la normale. Donc, il m'envoie chez un médecin. Le médecin me dit de venir toute seule dans la salle d'attente. Mais encore une fois, je pouvais pas, vu que je parlais pas très bien anglais. Il fallait que cette personne, cette Espagnole que je connaissais depuis 3 jours, qui... ne connaissait que mon prénom, écoute tout mon antécédent psy afin d'avoir un médicament. Donc on arrive, le mec discute, elle m'aide à traduire, elle comprend toujours pas trop ce qu'elle fait là. Et en fait, c'est un médicament qui est très classique en France, c'est du Xanax qu'on prescrit comme on prescrit des Haribo en France, quoi. Et le mec me regarde et il me dit « Mais par contre, en France, vous êtes complètement fou. Nous, on prescrit jamais ça. C'est un médicament qui est complètement... Enfin, qui est hyper dangereux. Donc moi, je me retrouve là à me dire « Non, mais je suis une droguée, en fait. Je prends des trucs une fois par an qui... » Enfin bref, le mec me fait plus paniquer qu'autre chose, en fait. Et refuse de me délivrer un médicament. Il me dit « Je refuse de donner des médicaments, ce type de médicament, à n'importe qui, quoi. Il vous faut, un suivi, machin. » Et donc, en fait, je me retrouve... J'ai 18 ans quand je pars en Erasmus. Non, j'exagère. J'ai 20 ans quand je pars en Erasmus. Tout était hyper simple en termes de ta carte bancaire, maintenant elle va partout en Europe, ton téléphone, t'as plus besoin de changer les forfaits. Erasmus, c'est quand même, genre, juste financièrement, t'as plein de bourses et tout, enfin, tu n'as quasiment aucune démarche à faire. Tu rentres dans un avion, t'arrives dans l'université et c'est nickel. Par contre, en termes de médicaments, etc., c'était vachement compliqué. Donc là, je me retrouve toute seule sans médoc. Et je me dis, il va falloir que je rentre en France parce que je peux pas gérer la crise d'angoisse qui est en train de monter, quoi. Et donc là, du coup, j'ai dû réserver des avions. Mais vu que c'était pendant les vacances scolaires, t'avais pas d'avion en France. C'était Ryanair à l'époque, donc l'enfer. Et j'ai dû, du coup, interrompre mon séjour et mes vacances, du coup, à Londres pour redescendre en France, prendre un médicament et repartir. Ah ouais, je suis redescendue chez mes parents à la campagne, quoi. Mes parents m'attendent à l'aéroport, ils se demandent bien ce qui me prend, parce que tout s'est bien passé pendant 9 mois, et là, d'un coup, ça va plus, quoi. Oui, je leur dis, je rentre, il me faut absolument un Xanax, vite. Donc mes parents m'attendent, ils avaient un médicament pour me dépanner, donc ils me dépannent. D'ailleurs, c'était un petit peu drôle, ça. C'est qu'ils se sont trompés. Enfin, je prenais la moitié d'un 0,25 et là, ils se sont trompés. Ils m'ont amené un 0,5. Et vu que j'étais très angoissée, j'ai décidé de le prendre entièrement. Ce qui faisait 4 fois la dose de Xanax. Du coup, le retour était hilarant parce qu'ils me parlaient. J'étais vraiment, va, vous. Bref, terrible. Ils m'emmènent chez le médecin pour refaire une ordonnance pour pouvoir en amener en Angleterre. Et... du coup, je demande à mon médecin. J'ai vu deux médecins en Angleterre qui me disent que je suis en train de de me shooter à l'héro, quoi. Donc, si c'est pas bon, il faut me le dire. On va trouver une solution, on va réduire et voilà. Enfin, le médecin était très en colère après les médecins anglais parce qu'il se disait, enfin, c'est pas, tu peux pas te prétendre médecin. Tu te retrouves avec quelqu'un qui est hyper angoissé, qui te supplie presque d'avoir un médicament pour soulager son angoisse et lui dire. Qu'elle fait n'importe quoi, qu'elle va être dépendante, etc. Alors que je demandais un médicament, tu vois, je demandais pas à avaler la boîte. Et ils me disent que c'est des spécificités de justement chaque pays de l'Europe qui est pas hyper à l'aise avec les médicaments psychiatriques, en fait, tout ce qui est Xanax, antidépresseur, antipsychotique, tout ça. Ils ont tous des façons de le concevoir qui est hyper différente. Par exemple, je crois que c'est en Espagne où ils en prescrivent comme nous, comme des Haribo, quoi. Tout le monde est sous Xanax. Mais ouais, chaque pays a une consommation qui est légèrement différente. Et en Angleterre, apparemment, ils sont anti-anxiolytiques. Après, ben, tu vois, ça m'est jamais arrivé en France qu'on refuse de m'en prescrire. Enfin, parce que je pense que t'as un suivi aussi sur la carte vitale. Ils peuvent voir... Enfin, moi, ma carte vitale, elle est open. Donc, ils peuvent lire les prescriptions que j'avais avant. Donc, ils voient que c'est régulier, quoi. Mais en Angleterre, vraiment, il y avait ce truc de « En France, vous êtes des consommateurs fous d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'est dangereux, faut que vous en rendiez compte. » Ce que j'ai trouvé très moyen, parce qu'en fait, tu dis ça à une personne qui est angoissée. Tu lui dis « T'es en train de devenir taré, t'es fou, tu t'en... » Enfin, ça te plonge dans une angoisse qui est encore plus profonde. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pas pu attendre. J'ai dit « Il fallait que je rentre en France tout de suite, quoi. » Le mec venait de me dire que j'étais une angoissée folle et que j'allais finir en HP, limite. C'est que, genre, c'est comme quand t'as mal au ventre, quoi. Il y a des gens qui adorent souffrir par plaisir de souffrir, ils refusent de prendre un doliprane. C'est très bien, mais moi, j'ai pas du tout envie de souffrir, donc donne-moi ton Xanax et hop, ça dégage. Et voilà, après, du coup, elle m'a prescrit ses médicaments, elle m'a bien fait une ordonnance, une dérogation, on a dû aller à la... Tu sais, à la CPAM ou je sais plus, pour avoir une dérogation sur le fait que je pouvais emmener tant de boîtes de médicaments en Angleterre. Parce que du coup, il a fallu faire plein de démarches après. Parce que du coup, bah, vu que j'avais trop attendu pour prendre le médicament, il en fallait prendre sur un mois, tu vois, tous les jours un médicament par mois. Mais j'avais pas le droit d'emmener cette boîte à l'étranger. Tu vois, c'était considéré presque comme de la drogue. Donc il a fallu faire des démarches et des dérogations avec des ordonnances, des lettres de médecins pour que je puisse faire passer cette boîte de médicaments en Angleterre. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème, qu'on ne me fasse pas chier ni à la douane ni nulle part. Et je suis rentrée en Erasmus et l'angoisse forcément, c'est quand ça monte, ça met du temps à redescendre. Mais tout s'est très bien passé, j'ai fini mon année Erasmus et voilà quoi, je suis pas juste pas retournée voir un médecin anglais.
Ces derniers temps j'y arrive pas, je fais même plus sourire le miroir. Je commence le livre à la fin de l'histoire. Si c'est pas moi, c'est un autre, sert à rien de se forcer d'y croire. J'ai chanté toutes mes blessures et j'ai soigné aucun mot. J'essaie de pas finir parano. J'ai bientôt vu tous les autres passer devant moi à la pause. Déception nous frappe comme la foudre. Je rappe en fermant les yeux comme ce migrant qui prie dans la soute. Dans le doute, je reprends la route. Chez moi, c'est pas trop la fête. Je lui dis que c'est de ma faute. Elle me dit, ça va pas la tête. Là, c'est ma troisième cigarette. Je me laisse même plus respirer. Je veux pas finir comme Samy qui mégote dans son canapé. Terre de la taille d'une canne à pêche. J'ai encore mal à la tête. Y'a plus aucun son qui me fait sourire. Là, j'ai plus le cœur à la fête. Y'a juste mon ventre qui demande à s'ouvrir. Le soleil voulait rentrer. La mélancolie voudrait partir. Ils disent les contraires s'attirent. Donc, on sourit sous la pluie. Ouais, ça ira. Promis demain, ça ira. On sourit sous la pluie, tu sais l'orage c'est pas si grave. Ouais ça ira, promis demain ça ira. On sourit sous la pluie, tu sais l'orage c'est pas si grave. Ouais ça ira, ça ira. On sourit sous la pluie, tu sais l'orage c'est pas si grave. Ouais ça ira, ça ira. On sourit sous la pluie, tu sais l'orage c'est pas si grave.
Je suis Victor. Et je viens de l'Espagne et je suis un ingénieur qui a commencé à travailler à Genève. Et ouais, je suis arrivé à Genève en février de cette année. Et je suis arrivé avec un niveau très très bas de français. Bon, encore bas. Et Genève est très proche dans les Alpes et je suis arrivé en hiver. Alors, un week-end, et j'ai décidé d'aller à faire des skis avec un ami et aller à la France. Je pense que nous sommes allés Grand Massif, prochain à le Mont Blanc. Donc je suis parti avec mon ami, il est britannique. Entre nous deux, nous avons décidé que mon accent est meilleur, que je parlerai en cas d'avoir vision, de parler avec quelqu'un. Voilà. Alors, on était très ravis d'aller ensemble parce qu'on n'a pas vu de longtemps. Et alors, on a mis toute l'équipation sur la voiture et donc on est parti à l'aventure. Et à la matin, c'était comme à les 9 heures de la matin. Alors, dans les frontières France-Suisse, un policier nous a fermé pour faire un contrôle. Et je pense que les policiers étaient français. Et le contrôle a été normal. Et d'où vous venez, et où est-ce que vous allez, à faire quoi, etc. Et à la fin, la dernière demande, il nous a demandé si tous les questionnaires a été suffisant. Pour moi, était très bizarre, mais j'étais comme oui, suffisant, tout parfait. Et il m'a répété, c'est suffisant? Et j'insiste que oui, que tout va bien, que c'est suffisant. Et il s'est fermé. Et m'a regardé et dit très lentement, est-ce que vous avez des stupéfiants? Et je suis, j'ai rougi parce que j'ai compris que ce n'est pas suffisant qu'il avait dit. Et je disais tout le temps, oui, nous avons la drogue, non? Et j'étais comme non. Mais est très similaire à l'espagnol parce que l'espagnol est stupéfaciente. Alors, stupéfiant. Et le policier m'a dit si est-ce qu'il doit chercher dans les bouts. Et j'étais comme, non, nous n'avons rien. I promise. Nous sommes allés à faire le sport. Nous sommes très, très healthy. Peut-être on avait pris une bière quand nous sommes finis de skier. C'est très légal. Hein. Il a regardé à la dernière pour voir si c'était quelque chose. Il a vu les esquisses et toute l'équipation. Et il a compris que bon, il a été un week-end dans l'hiver. Alors c'est normal que les personnes aillent à skier. Il a compris que nous ne parlons pas les français bien. Il a souri et il nous a dit qu'on peut partir. Et ouais, c'est très... Maintenant, j'ai souri avec cette situation, mais à ce moment, est très, très... Et c'était comme, je sais pas, 5 minutes, mais pour moi, est très... On vit.
Tu es toujours dans mes nuits. Je ne fais plus la différence entre les heures et les minutes, mais tu seras toujours ici. Parce que c'est vrai que la bouteille maintenant est vide, mais à l'intérieur, c'est ton message qui survit. Je ne peux plus voir les étoiles dans ce brouillard, si tu préfères, alors qu'on soit des amis. On est seulement amis, on est seulement amis. Et claro que non. Ahora no bailo pa' pegarme a tu cadera, solo está sonando un reggaetón. Tienes la cara más pura que una moneda y te desperdicié en alguna ocasión. Maintenant je pars si tu repars, je fais la gueule, je me perds dans tes yeux. Yeah, je me perds dans tes yeux, je me perds dans tes yeux. Yeah, yeah. La vuelta en tu cabi sin un centavo. Pensaste de qué coño va este pavo. Cuando tú, cuando yo, on était bien plus que enamorados. He vuelto a pecar por no serte claro, por no consolarte en momentos raros. Tú eres tú, yo soy yo. On skiffe tous les deux, mais por separado. Ahora te veo bailando en los charcos. Sus ojos son fletes de los tejados. En los tejados.
Je m'appelle Alicia, je vis en Suisse et je suis actuellement comédienne. Mon papa est né en Allemagne dans les années 60. Il est de père anglais et de mère espagnole. Puis ils sont allés vivre à Versailles quelques années pour ensuite s'installer en Belgique. Et mon papa a vécu en Belgique jusqu'à ses 31 ans. Puis il a rencontré ma maman qui est suissesse et ils se sont installés en Suisse. Alors à ma naissance, on m'a donné le passeport suisse et le passeport anglais. Et il y a quelques semaines, j'étais de passage à Paris et j'avais envie de visiter le musée du Louvre pour son exposition temporaire sur des œuvres de la Renaissance portugaise. Et j'ai réservé mon billet en ligne. J'ai vu que quand on a moins de 25 ans, l'entrée au Louvre est gratuite. Oui, de l'Union européenne et moins de 25 ans. Je fais la queue pour qu'on contrôle mon sac, puis je fais la queue pour avoir accès à l'exposition, et je présente mon billet, mon passeport anglais, et on me refuse l'entrée parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Alors bon, deuxième cartouche, je montre mon passeport suisse, et on me le refuse aussi, donc je refais une troisième queue, pour m'acheter un billet à 15 euros, puis je refais la queue pour avoir accès à l'exposition temporaire. Et là, ça m'a fait quelque chose parce que je me considère comme européenne, enfin faisant partie de l'Union européenne, et avec le passeport anglais et le suisse, eh ben, on me refuse une certaine entrée au grand musée du Louvre. On m'a sortie du club, ouais. Et là, je me suis dit, ah, je pourrais me faire faire le passeport espagnol pour encore être européenne. Mais je ne l'ai pas fait. Si je fais les démarches, j'ai aussi droit à avoir le passeport espagnol. Mais je devrais peut-être renoncer à l'anglaise. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en avoir trois. Là n'est pas le propos, mais en fait, ce n'était pas mon passeport, mais celui de ma petite sœur, parce que j'ai plus de 25 ans. Mais ce n'est pas ça dont je voulais parler ici. Dance in my underpants. I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits. The shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. I suppose a single
Alors du coup, ben, moi je m'appelle Ingrid, j'ai 30 ans maintenant déjà, et je suis donc franco-suédoise. Et je fais une thèse en droit privé à la Sorbonne à Paris 1. Je vais avoir 23 ans, fin d'année de Master 1. Donc j'avais trop envie d'aller apprendre le suédois. Donc je vais pendant 2 à 3 semaines apprendre le suédois à Malmö. Je vais chez l'ancien mari de la cousine de mon père. Et ils sont toujours très proches parce qu'ils ont des enfants ensemble, donc il est toujours très intégré à notre famille. C'est un peu comme si c'était mon oncle. Et donc je vais avec, chez lui avec sa nouvelle femme. Et ils sont trop sympas. Déjà, ils sont trop sympas. Et ils habitent dans Malmö, donc qui est, je crois, la deuxième ou troisième ville de Suède. Vraiment dans Malmö, mais dans un endroit où il y a plein de petites maisons trop mignonnes. C'est hyper beau et tout, mais il faut savoir que là où ils habitent, c'est juste à côté du quartier un peu chaud de Malmö, là d'où vient Zlatan. C'est vraiment le quartier chaud de la ville, quoi. Et en fait, il y a des sortes de HLM, c'est un peu comme une cité dans la ville. Mais là où ils habitent, enfin c'est une à deux rues après, mais eux, c'est plein de petites maisons, quoi. Donc moi je fais 2 semaines de suédois, je commence à trop bien parler suédois, c'est trop chouette et tout. Et un jour ils me disent, ah bah c'est samedi, aujourd'hui on va visiter les jardins de tous les voisins, on va de jardin en jardin. Donc le truc tellement suédois, enfin au possible quoi, tu vas de jardin en jardin, tu visites les jardins de tout le monde, dès que t'arrives t'as genre la petite boisson, la petite limonade avec les cannelle boulée à côté, enfin le truc c'est genre le monde des bisounours quoi, c'est la Suède comme tu l'as rêvé quoi, alors les gens ils sont trop gentils, ils sont trop sympas avec toi, le petit cannelle boulée et tout, tu visites tous les jardins qui sont trop beau, enfin tu te dis mais c'est quoi ces gars tu vois, tout est parfait, taillé, carré, il y a rien qui dépasse, enfin c'était vraiment le full truc parce qu'en plus je crois qu'on avait fait Midsummer avant, tu sais c'est la fête du début de l'été et tu construis un arbre avec des fleurs et tu danses autour de l'arbre, c'est clairement la fête païenne hyper cliché quoi, il y a des chansons, tout le monde fait des danses complètement ridicules. Enfin, tu vois, tu dois imiter le canard, c'est très bizarre. Enfin, donc journée vraiment où je me dis, bah ça, c'est ça la Suède, tu vois. Qu'est-ce que c'est, genre le monde des bisounours, tout est rose, quoi. Et le soir, on va dîner avec donc des amis de Sonia et Maria, du coup, le couple chez qui je restais. Ils ont des filles de mon âge. Et les filles disent, ah bah voilà, t'as grave progressé en suédois. Ce soir, on va à une fête. Est-ce que tu veux venir? Moi, je me dis, bah, trop bien, enfin, je rencontre des gens genre de mon âge, suédois, enfin, qui sont pas ni mes cousins, ni ma famille. Donc, moi, je suis bah, grave chaude, quoi. Donc, on va à cette soirée, elle me dit, ah, bah, en plus, c'est trop bien, c'est juste à côté de ces Sonia et Maria. Bah, trop stylé et tout. J'y vais avec mon vélo, du coup, mon petit vélo qu'il m'avait prêté. Et là, on débarque dans cette soirée, donc, mais qui est dans cette zone un peu chaude, quand même, de la ville. Mais enfin bon, moi je viens de Paris, enfin à l'époque j'habitais déjà je crois à Barbès, enfin clairement ça me paraissait quand même ok, mais c'est vrai que quand j'arrive, je vois qu'il y a genre des gars qui zonent. Mais bon, des gars qui zonent, voilà, il y en a partout quoi. C'est ça, c'est le quartier, c'est Rosengard. Et ouais, c'est ça, en plus ça a un nom super sympa, Rosengard, tu sais, t'as l'impression que c'est. tu vas arriver, il y a des petites roses dans la banlieue, enfin t'as pas du tout l'impression que c'est un truc chaud quoi. Mais je me souviens quand même aussi, il y a un mec de mon cours de suédois qui m'avait raconté qu'il habite dans ce quartier et que il y avait eu une bombe dans l'appartement à côté, une grenade, qu'ils avaient réussi à la sortir, mais qu'il y avait eu genre des règlements de compte entre gangs. Mais cette histoire, pour moi, était vraiment genre, je sais pas, c'est une histoire, mais j'y crois, enfin je sais pas, j'y crois pas, mais ça s'intègre pas dans mon schéma de la Suède, c'est le monde des bisounours. Et en plus, je pense que c'est pas rentré dans mon cerveau. Il m'a raconté cette histoire, mais en mode, de toute façon, ce gars n'est pas suédois, il apprend le suédois comme moi. Je comprends pas cette histoire, c'est pas normal, le. Ça doit pas, c'est autre part quoi. On va à cette soirée, trop sympa, etc. Je parle et tout avec les gens, c'est trop cool. Et là, on entend des énormes bruits, tu vois, hyper hyper fort, genre bam 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 et tout quoi. On arrête la musique, trop bizarre. Il y a un gars qui dit bon, je vais aller voir. Le gars chez qui on était, il sortait avec une Suédoise, mais il était anglais. Bref, donc c'est important pour l'histoire parce que du coup il va voir à la fenêtre, il revient et il gueule tout le monde à terre en anglais, tout le monde à terre, tout le monde à terre. Il y a un gars qui a genre une mitraillette dans la rue, donc tout le monde à terre. Donc là, moi je dis, c'est quoi ce délire? Je suis en Suède, je viens de manger genre des cannelle boulet, genre c'était le monde des bisounours, je me fous à terre, tu vois. Donc je suis à terre, je comprends pas ce qui se passe. Donc en plus, bon, ok, les gens ils parlent bien anglais, mais là, peut-être tout le monde commence à parler suédois, enfin voilà, c'est l'enfer. Bon, au bout d'un moment, on finit par quand même se relever. Et en fait, il y a eu une fusillade dans la rue, en fait. Il y a eu une fusillade dans la rue, il y a des gars qui se sont fait descendre, quoi. Règlement de compte de gang. Donc à ce moment-là, bah, tu sais, tout le quartier, il est fermé, et tu passes la pire soirée de ta vie, t'as envie de rentrer chez toi, et la police te dit, tu peux pas bouger, en fait. T'as pas le droit de bouger. Donc on est là, moi je suis en mode c'est quoi ce délire, genre, enfin tu sais t'as un moment de flip parce qu'en plus ils habitaient au premier étage, donc enfin tu peux grave te choper une balle perdue quand même. On sort, en plus incapable de récupérer le vélo qu'il m'avait prêté, et je me suis vraiment dit mais putain mon vélo il va être criblé de balles, je vais jamais pouvoir rendre le vélo à Sonny Maria, mon côté sud-ouest t'es genre mode ah genre c'est horrible ils vont prêter ce truc là et tout, je rentre et tout, enfin il était tard tu vois il devait être minuit une heure, je crois que genre j'appelle bah, mon père. Enfin, il répond, et je lui raconte l'histoire, mais en pleurs, quoi. J'ai eu un coup de... J'ai vraiment flippé, quoi. Je lui ai dit, j'ai trop flippé. Et là, il me dit, mais oui, mais c'est normal, t'es Malmö, c'était un peu genre la Chicago de la Scanie, genre, il y a des garde-gang et tout. Je lui ai dit, mais pourquoi je m'as pas prévenu, quoi. Tu sais, genre, moi, je suis là, tout est bisounours, tout est rose, tout est bleu en Suède, pourquoi je me préviens pas. Et donc, il me dit, bah, je suis désolée, mais ouais, c'est connu, quoi. En gros, il était limite un peu penaud, parce que comme lui non plus, il vit pas vraiment en Suède, c'est pas non plus un truc auquel il s'attendait. Il s'est pas dit, je vais devoir prévenir ma fille, puis il était en mode, bah ouais, c'est vrai que ça, c'est connu pour ça, quoi, mais bon, en principe, c'est aussi connu pour d'autres choses, quoi, tu vois. Il y a aussi un super festival de musique, il y a la fête des écrevisses, tu vois. Et donc le lendemain, pareil, Sonny, il m'explique, ouais, il y a un peu des gangs, mais là, c'est vrai que ça, l'année où j'étais allée, ça avait un peu explosé, il y avait cette bombe avant, et en fait, la bombe ou la grenade... C'est, qui avait été envoyé dans l'appartement, la fusillade, c'était genre la réponse à la grenade, quoi. Donc je sais pas comment expliquer, genre je me suis vraiment dit, depuis j'ai vraiment des œillères, je veux pas du tout voir que c'est aussi possible d'avoir de la criminalité en Suède, tu vois. Et du coup, on allait chercher mon vélo, et c'était juste, il était pas du tout criblé de balles, mais c'était assez marrant, parce que c'était un endroit où quand je l'ai garé, il y avait genre peut-être 50 vélos. Là, il n'y en avait plus aucun, il y avait juste le mien, genre t'es dernier survivant de la bataille. Et il était là tout seul. Et du coup, après, bah, ils m'ont expliqué que ce quartier-là de Malmö, il est un peu chaud, quoi. Mais c'est l'équivalent un peu de Marseille. Ouais, ça m'avait bien secoué en me disant, en fait, tu peux trop avoir des clichés sur un pays que tu vois de l'extérieur, pourtant c'est ton pays, mais que lui aussi, en fait, il vit des trucs comme le tien français, en fait. Il y a aussi de la criminalité là-bas, quoi. Mais en fait, c'était totalement logique, mais comme j'avais eu la journée vraiment full bisounours Suède avant, où c'était vraiment, bah, voilà, tous les gens, tous leurs enfants, ils sont tous blonds, ils sont tous hyper, tu sais, en bonne santé, trop sympas avec toi, t'as l'impression que leur vie, tu sais, genre leur intérieur, il est trop beau, enfin, t'as cette illusion, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait ça aussi, je m'étais vraiment dit, bah, moi j'ai vraiment cette double nationalité qui fait que parfois t'idéalises un peu la Suède, tu l'idéalises, les gens, ils sont toujours sympas quand il va, en plus, moi j'y vais souvent l'été, il fait beau, enfin. Et en fait, bah, non, il y a aussi des côtés négatifs de la Suède, il y a aussi ça, et. Mais c'est juste que c'était... Enfin, mon cerveau s'est vraiment dit, je peux pas être en Suède et être au milieu d'une fusillade. C'est pas possible. Genre, c'est deux informations qui vont pas ensemble. Alors que ça a pas de sens, enfin, tu vois.
On conclut donc cet épisode de Rentrée Unioniste avec le rappeur suédois A36 et le titre Samma Gamla Vanliga. Pardon pour ma prononciation suédoise. Pour les choix musicaux des autres intervenants et intervenantes, Dans mes nuits de Paul Granch, le rappeur roubaisien Ben PLG et le titre Demain ça ira, ainsi que One Point Perspective d'Arctic Monkeys dont le nouvel album de Car paraîtra le 21 octobre. Merci à Margot, Victor, Alicia et Ingrid pour leur participation. Merci à Adèle Piantavigna pour les drums sur ma voix. À dans un mois.